Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire, la bulle d'histoire de Noël quasiment. Je suis avec un éditeur et un dessinateur, mais vous êtes peut-être tous les deux éditeurs d'ailleurs, des éditions Folobolobo, je crois qu'on dit comme ça, c'est un peu ésotérique, peut-être que vous nous direz d'où vient ce nom un peu mystérieux. On a déjà parlé de votre travail dans deux bulles d'histoire avec Julie Chapalaz et puis avec l'histoire du petit Gaston en Normandie. Voilà deux émissions qui ont eu pas mal de succès. Là, je vous ai tous les deux pour parler d'un projet que j'ai adoré. Je veux dire que c'est une des choses les plus drôles que j'ai jamais lues en bande dessinée, qui est la petite histoire des colonies françaises. Un travail titanesque, puisqu'on est sur 1000 ans d'histoire en à peu près 600 pages.
Même ouais, si le 140.
Gros, même si le gros, c'est 500, ouais, c'est ça, c'est un livre énorme. Avant de parler de votre travail, moi, je pose toujours la même question à mes invités. C'est qui êtes-vous ? Le premier, c'est qui ? C'est Grégory ou Otto qui va se présenter ?
Je vais commencer.
Grégory.
Alors, moi, je suis Grégory Jarry. Avec Thomas, on est cofondateur des éditions Flubble Up. C'est une maison d'édition qu'on a montée en 2002. Enfin, qui a été diffusé en librairie en 2002 et qu'on a monté dans les années 90. On a commencé par faire un fanzine quand on était étudiant et puis on a voulu poursuivre et aujourd'hui on en est à la maison à 20 ans. On est deux auteurs, les gens qui travaillent maintenant, la maison d'édition salarie 7 personnes et tous les gens qui travaillent dans la maison d'édition, plus ou moins, plutôt plus que moins, sont également auteurs aussi avec diverses casquettes. D'ailleurs, Flubble Up, c'est le bruit que ça fait quand on tire la langue, pour répondre à votre question. Donc, il y a un petit côté impertinent dans les bouquins qu'on publie. Et la petite histoire des colonies françaises, ça a été sûrement le premier gros succès de la maison d'édition. C'est une série de livres qu'on a écrit de 2006 à 2012, puis qui est ressorti en intégrale en 2015. Et puis là, qu'on vient de rééditer cette année, tout au long de l'année. Ils étaient épuisés depuis un petit moment. Les livres ont eu une belle vie, plein de rééditions successives. Ça fait 10 ans donc, que le dernier volume est paru et il était temps de les remaqueter. On les a sortis avec une couverture en dur, elle était souple avant, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est une présentation et je suis moi aussi amoureux du roman photo. J'en publie en tant qu'éditeur et j'en pratique en tant qu'auteur et on en reparlera peut-être dans une autre émission.
Voilà. Absolument, absolument.
Donc moi je suis Thomas Dupuis, je signe Autoté, donc je suis cofondateur avec Grégory des éditions Flubble Up. Pour préciser ce que vient de dire Grégory, on a le premier fanzine qu'on a sorti date de janvier 1996. C'était vraiment un fanzine tout ce qu'il y a de fanzine. Donc en fait vraiment on a tout au long entre 96 et 2001 en fait on a fait grandir et mûrir notre pratique. Et en fait, en 2002, après un ou deux ans d'autodiffusion en librairie, on a eu accès à une diffusion en distribution nationale via le comptoir des indépendants. Et c'est de là que nous, on date la création de la maison d'édition, parce que c'est à partir de là vraiment qu'on s'est investi dans l'édition professionnellement, en fait. Voilà. Et donc, moi, je dis toujours que je suis auteur de bandes dessinées et de flipbooks parce que c'est une autre partie de ma pratique et j'en fais beaucoup. Dernièrement, j'ai ajouté une autre corde, c'est que j'ai fait un livre jeunesse qui s'appelle Jojo l'éléphant qui est sorti en août. Je sais pas si je vais en faire d'autres, mais c'est un truc que j'ai beaucoup aimé faire. Grégory et moi, on est tous les deux éditeurs. Tout au long de notre histoire, c'est un peu nous qui avons choisi les livres qu'on publiait. Après, depuis quelques années, donc la maison d'édition est une coopérative. On est plusieurs personnes à se partager les tâches éditoriales, donc édition, assistanat d'édition, communication, graphisme, etc. Et on est tous, effectivement, à des degrés divers, auteurs.
Quelle est la ligne de votre maison d'édition ? Est-ce qu'il y a une ligne ? Est-ce qu'il y a des lignes directrices, des choses que vous ne ferez pas ?
Moi, je dis toujours qu'on n'a pas vraiment une ligne, on a une espèce d'arborescence, c'est-à-dire que chaque livre, en fait, nous donne l'occasion, chaque livre qu'on publie nous donne l'occasion d'en publier d'autres. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des projets qu'on a reçus un peu tôt, des fois, et qu'on aurait bien fait, mais qu'on ne savait pas comment le rattacher à un autre livre de notre maison d'édition. Donc, tout fonctionne un petit peu comme ça. Et après, effectivement, comme disait Grégory, au départ, c'est vrai qu'on a, on a un fond plutôt impertinent. Voilà, avec le temps, on a aussi publié des choses qui n'étaient pas forcément dans le registre de l'humour, mais on aime bien qu'il y ait de l'humour, effectivement, dans ce qu'on publie.
Et on est aussi, dans la ligne éditoriale, il y a un fort goût pour le récit, la fresque, et c'est ça qui nous amène aussi à faire des récits historiques. La bande dessinée historique nous intéresse. Après, elle est pratiquée de manière très un peu pompier. Le dessin est souvent un peu pompier. Il y a un truc très traditionnel dans la bande dessinée historique que nous, on essaye de détourner, notamment avec deux séries dont j'ai été le scénariste, La petite histoire des colonies françaises et les voyages de Belzoni en Égypte et en Nubie, qui prennent pas mal le contre-pied de ce qu'on peut voir en bande dessinée historique classique, disons. Donc effectivement, là, on est là pour parler de La petite histoire des colonies françaises, et c'est une série qui a longtemps fait un peu une colonne vertébrale de la maison d'édition, parce que à la fois en tant que récit, ça raconte quand même 500 ans de colonisation, et avec le ton impertinent qu'il y a, le dessin aussi volontairement en bâton, Shadok, qui prend le contre-pied total de la bande dessinée réaliste historique.
Voilà. Même dans beaucoup de vos livres, il y a à la fois du récit, de l'histoire, de l'humour, mais il y a aussi un projet politique. C'est peut-être un mot un peu pompier ou un peu pompeux, mais quand on voit votre catalogue, on sent ce projet politique, ce projet d'un vrai regard sur la société.
Ouais, ça fait partie aussi des fondements de la maison d'édition. Même dans les jeunes auteurs qu'on a pu accueillir depuis une dizaine d'années, il y a souvent des livres qui portent un regard sur le monde, sur la société, qui proposent des choses politiquement à travers des récits qui sont souvent un peu complexes. Je suis d'accord avec vous.
Mais pas que.
Ouais, mais pas que.
Non, pas que.
Et par rapport au projet de la maison d'édition, les illustrateurs qu'on va publier, les dessinateurs qu'on va publier seront jamais des gens qui pratiqueront un dessin ultra réaliste et tout. On est dans un dessin spontané, sûrement un peu à cause, Thomas disait, des influences qu'on a d'Harakiri, liées à l'humour, mais aussi liées au dessin. Charlie Mansuel, ces dessinateurs-là des années 70 pratiquaient un dessin presque écriture. Ils jetaient le dessin sur le papier sans faire de crayonné. Et nous, on est issus de cette école-là, et on a vraiment un goût pour le côté jeté sur le dessin, dans à peu près tout ce qu'on publie. Enfin, je ne sais pas, je me trompe peut-être, il y a peut-être des exceptions. Bon.
C'est ça, oui, donc c'est tout ce qu'on dit là, c'est un peu les bases de ce qu'on fait. Après, il y a toujours des exceptions qui viennent confirmer la règle, quoi. Comme par exemple Saison des Roses, qui est notre deuxième, enfin qui est un de nos gros succès actuels. On ne peut pas vraiment dire que le dessin soit jeté, même s'il y a un dessin très dynamique qui est influencé par le manga notamment, mais c'est un dessin qui est très travaillé aussi. Quoi.
Donc on va parler de La petite histoire des colonies françaises. Moi, je tenais à en parler d'abord, parce que, comme vous l'avez dit tous les deux, il y a la réédition des 5 volumes.
Ouais, la série a 10 ans du coup. Mais voilà, elle reste, je crois, complètement d'actualité. Elle n'a pas pris une ride. Enfin, je ne sais pas, ça c'est à vous de me le dire. Mais...
Ouais, ça me paraissait important d'en parler parce que je trouve qu'elle est totalement dans l'actualité. On a les fameuses XIème lois sur l'immigration qui sont en train d'arriver. Ça, c'est le dernier volume de votre série. Mais on a aussi tous les débats sur la restitution des œuvres d'art pillées par les colons. On va dire comme ça. Est-ce qu'il faut les restituer, pas les restituer? Que sont ces collections? Il y a aussi tous les débats sur la reconnaissance des crimes de la colonisation. L'Algérie, le Cameroun, il y a tous les pays d'Afrique, oui, il y a tous ces débats, là, les fameuses dents de Patrice Lumumba qui sont reparties en Afrique.
C'est bien que vous parliez du Cameroun, parce que quand on a écrit le tome 4 de La petite histoire des colonies françaises, qui est sur la France-Afrique, moi, à cette époque-là, j'ai découvert cette histoire de la colonisation du Cameroun et la participation de la France, que je ne connaissais pas, et il n'y avait aucun livre de référence à l'époque là-dessus. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, avec ce que j'ai pu trouver sur Internet et quelques historiens quand même qui avaient fait des passages assez courts dans des bouquins de l'histoire de la colonisation de l'Afrique. Et puis Catherine Kokri-Vidrovitch avait travaillé aussi dessus. Aujourd'hui, il y a un livre de référence qui a été publié depuis, qui est formidable, qui a un gros volume. On a essayé dans cette petite histoire des colonies françaises justement d'aborder des thèmes qui n'étaient pas très connus à l'époque, de montrer les rouages. Je pense que c'est ça qui est intéressant et qui fait que ça n'a pas perdu de sa force, c'est que le livre, au-delà d'être exhaustif, d'être le plus exhaustif possible, il essaie de montrer les mécanismes à l'œuvre et qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui dans n'importe quelle entreprise d'impérialisme ou de colonisation.
Et comment vous avez eu envie ou l'idée de vous lancer dans un projet pareil? Parce que c'est plusieurs années d'écriture, plusieurs années de travail de dessin. C'est 5 volumes, on l'a dit, c'est plus de 100 pages. Il y a un gros travail avec une historienne, on va en reparler. Comment vous vous êtes dit, tiens, il faut absolument qu'on raconte cette histoire?
On n'est pas historien, on est auteur de bande dessinée, ça fait quand même une grosse différence. On peut se permettre d'utiliser notre sensibilité dans nos livres, ce que peut pas faire l'historien, qui doit être le plus objectif possible. Nous, on aborde ça par l'humour, parce que c'est ce qu'on sait faire, et par notre sensibilité. Et effectivement, moi à la base, je m'intéressais très près à la guerre d'Algérie, à cause d'une personne de ma famille qui l'avait faite, avec qui j'ai fait des entretiens. Et j'ai eu envie de faire après qu'on ait fait un livre qui s'appelle Petite histoire du Grand Texas, qui raconte plus ou moins l'histoire de la constitution des États-Unis en tant que nation, et pas en tant qu'État séparé les uns des autres, comment ils ont constitué leur nation, et donc ça raconte l'histoire aussi de l'impérialisme américain. On avait mis au point un langage avec Thomas pour raconter de l'histoire. Cette manière de raconter qu'on a dans la petite histoire des colonies françaises, qui est assez inédite, enfin en bande dessinée, ça pourrait être pratiqué, mais on est parmi les seuls à faire ça. On a un texte en haut qui raconte une histoire, et des dessins en bas qui illustrent le texte raconté sous la forme de bande dessinée. C'est pas une image qui illustre le texte qui a été écrit, c'est carrément une bande dessinée, donc avec une narration qui revisite le texte qui vient d'être écrit, qui le complète, qui prend le contre-pied, qui dit d'autres choses. Ce langage, on l'avait mis au point donc, dans Petite histoire du Grand Texas, et on avait envie de poursuivre. Ce livre a bien marché, et on s'est dit, et on a pris un pied pas possible à le réaliser, et on s'est dit, il faut qu'on continue. Et moi, j'avais ce projet autour de la guerre d'Algérie. J'ai commencé à écrire un peu autour de ça, et je me suis dit, si je raconte la guerre d'Algérie, il faut que je raconte la colonisation de l'Algérie. Mais en fait, si je raconte la colonisation de l'Algérie, il va falloir que je raconte la rivalité franco-anglaise, parce qu'elle s'est faite, entre autres, parce que la France avait perdu ses colonies
en Amérique.
Donc je me suis dit, si, dans ce cas-là, pour raconter la colonisation de l'Algérie, je suis obligé de raconter la colonisation du Québec, du Canada. Et puis si je raconte ça, il faut aussi que je raconte la rivalité franco-anglaise. Enfin, et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, le projet, c'est de raconter le projet impérialiste français. Il faut tout raconter, donc l'histoire des colonies françaises. Et j'ai fait des études de lettres, j'ai été biberonné pendant mes études aux philosophes des Lumières, à Diderot, d'Alembert, les encyclopédistes. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire... Est-ce qu'il y a des historiens qui ont déjà fait une histoire globale des colonies françaises? Et ça n'existait pas. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, c'est possible qu'aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'histoire globale. Chaque historien est séparé, est spécialisé dans une période. Et je crois que ça n'existe pas encore aujourd'hui. Il n'y a pas un livre qui va raconter la colonisation de l'Amérique et la France-Afrique. Ça ne se peut pas. Ou alors, c'est une compilation et c'est un historien qui va chapeauter plein de travaux de plein d'autres historiens. Ça, j'ai utilisé des livres comme ça pour le faire. Et on s'est dit, allez hop, on se lance dans le truc et on raconte toute l'histoire des colonies françaises et ça va faire plusieurs volumes. Je ne savais pas qu'il y en aurait 5 au départ. Et du coup, le coffret, là, a un petit côté encyclopédie. Quoi.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement pédagogique. On va parler de l'humour aussi, des moyens mis en œuvre dans le dessin. Parce que c'est, comme tu le disais, c'est assez extraordinaire. On n'a jamais vu ça, c'est une fausse économie de dessin, mais d'une richesse, moi je trouve ça assez diabolique. C'est des livres qui sont extrêmement pédagogiques. Moi, je vois ma fille qui est au collège, qui est en troisième, qui aborde le 20e siècle après le 19e. C'est des choses qui ne sont absolument pas abordées à l'école. Ou alors, c'est vraiment très ténu.
Toujours pas. Un peu plus que ça l'était. Quand même, il ne faut pas dire ça parce qu'on va se faire taper sur les doigts par les profs qui vous écoutent. Mais quand nous, on était étudiants, effectivement, ça n'a jamais été abordé. Et moi, c'est une des choses qui m'a poussé à l'écrire, c'est que j'ai eu vraiment l'impression que l'éducation nationale m'avait menti, au moins par omission, si ce n'est m'avait trahi, en ne me racontant pas cette histoire absolument passionnante et qui parle de mon identité profonde de citoyen français. Et c'est seulement à l'âge d'homme que j'ai, même après mes études universitaires, que je me suis intéressé à la question. Alors, effectivement, tout est disponible, on peut aller lire des bouquins et on peut trouver toutes les infos. Globalement, ce livre-là, outre le regard assez acerbe et le décodage des mécanismes, c'est quand même une compilation d'énormément de travaux d'historiens dans lesquels j'ai puisé pour constituer notre propre histoire des colonies françaises. Je répète un peu ce qui est dit dans la préface par Catherine Kokrividrovitch, mais avant la guerre d'Algérie, les générations de nos grands-parents, on leur racontait l'entreprise coloniale française, même si c'était la grandeur des colonies françaises, ils savaient qu'il y avait un empire colonial. Ils savaient ce qu'était Pondichéry, ils savaient ce qu'était l'AEF, ils savaient... Et quand il y a eu la guerre d'Algérie, on a tout mis sous le tapis. Il y a deux événements en France qui sont des refoulés historiques, et presque tous les ans dans l'actualité, voire même peut-être toutes les semaines, ces deux refoulés sont la colonisation, l'histoire des colonies françaises, et la collaboration. Ça commence tous les deux par un C. La collaboration, il n'y a presque pas un jour qui s'écoule sans qu'on en parle d'une manière ou d'une autre. Et la colonisation, c'est la même chose. Et du coup, on ne peut pas les étudier à l'école. La collaboration est à peine étudiée en réalité. On ne dit pas que les entreprises françaises ont massivement collaboré, on ne dit pas quelles banques ont collaboré. La colonisation, c'est la même chose, elle s'est faite avec les banques françaises qui ont encore pignon sur rue aujourd'hui, et on ne le dit absolument pas, quoi.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que effectivement collaboration et colonisation, mais que notamment le discours de Éric Zemmour qui revient sur la collaboration, c'est aussi un discours sur la colonisation et sur l'immigration. C'est ça qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'on voit que ces 500 ans qui ont passé de colonisation, d'appropriation, de spoliation des peuples africains, américains, mais évidemment asiatiques, vietnamiens, tout ça a des conséquences actuelles. Des conséquences sur notre société, sur les gens qui viennent et sur notre regard.
Bah oui, complètement, ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de le faire. C'est que ça fait vraiment fondamentalement partie de notre identité, même si on n'y a pas participé. Et il me semble fondamental de connaître, pour savoir qui on est, d'où on vient. Et comme on ne nous l'apprend pas à l'école, il faut bien faire des livres pour l'apprendre. Enfin. Et du coup, cette histoire des colonies françaises, pour moi, ça constituait une restitution de ce que la société française, de ce que l'éducation nationale ne nous apprenait pas. Et après, on l'a fait avec notre regard, notre façon de procéder, etc.
Voilà. Alors, il faut évidemment qu'on parle du dessin, parce que le dessin, il est extrêmement drôle. Je dois dire qu'on rigole quasiment à chaque case. On pleure aussi parce que tu as réussi avec des choses en apparence très simples, mais bon, quand on se penche sur le dessin, c'est quand même très très compliqué, à être tout le temps dans l'humour et dans l'abomination absolue.
Ah, comment t'as fait ça, Thomas?
Voilà, comment t'as fait ça?
Oui, donc Grégory parlait de notre... En fait, nous, on a un peu grandi aussi, on a lu des bandes dessinées quand on était ados, et dont c'était un peu la pleine période de Glénat et de Vécu et de Bourgeon, notamment Les Passagers du Vent ou des choses comme ça, ou Les Sept Vies d'Épervier dessinées par Juillard, qui sont des dessinateurs que nous on dirait pompiers, enfin c'est des gens qui savent très bien dessiner mais qui sont dans un luxe de détails, et on décrit bien tous les petits boutons des uniformes d'officiers, etc. Mais c'est aussi une vision de l'histoire un petit peu stéréotypé et figé un peu dans la cire, quoi. Et nous, on avait envie, enfin le truc, après c'est un cheminement, enfin, quand on a fait Petite Histoire du Grand Texas, on l'a fait aussi à un moment où on devait sortir le bouquin assez vite, parce qu'en fait il devait être associé à une exposition, et en fait ce qui devait au départ être un petit livret pour accompagner l'exposition est devenu un gros bouquin, ce qu'on n'avait pas vraiment prévu. Une espèce de contrainte technique aussi à faire un dessin très très simple, mais ça nous a beaucoup amusé, le décalage si vous voulez entre le texte savant et le dessin très simplifié est toujours assez efficace, quoi. On aime, comme je vous l'ai dit, on aime bien l'humour à la Charlie Hebdo, tout ça. Moi, je suis vachement influencé par le dessin de presse plus que par la bande dessinée. Et en fait, effectivement, avec Grégory, on travaille comme ça. C'est-à-dire que, il n'écrit pas tout le texte d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il écrit 10-20 pages, qu'il me soumet, et après, moi, je réagis en dessin. Donc, à la façon vraiment d'un dessinateur de presse, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour illustrer ce qu'il vient de dire, mais je vais rebondir dessus des fois souvent. Enfin, vous avez peut-être constaté que le dessin et le texte et le dessin font une espèce de ping-pong. Effectivement, ce type de dessin, donc de un, il y avait un côté se moquer un petit peu de la bande dessinée historique comme on l'imagine, c'est-à-dire la bande dessinée historique un petit peu pompière. Et il y avait aussi l'idée qu'on allait raconter des choses assez horribles, dont des massacres, des génocides, voire. Il fallait rendre ça d'une façon un peu digeste. Et en fait, quand avec mes petits bonshommes patates, je dessine quelqu'un en train de se faire couper la tête à la hache, c'est plus rigolo que quand on le fait avec un luxe de détails. Ça marchait bien. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le texte de Grégory est au départ fait de façon un peu, entre guillemets, Troisième République. C'est-à-dire que tout est raconté par le général de Gaulle, qui a une vision, bien sûr, biaisée de la colonisation. C'est didactique, mais c'est aussi quand même un peu sarcastique, quoi. C'est ironique. On est dans quelque chose où on nous assène un discours très Troisième République, mais il est tellement asséné que le lecteur se dit « oh là là, c'est horrible, quoi ».
Je voulais vous parler évidemment du texte, parce que c'est Troisième République, mais en même temps, c'est un espèce de général de Gaulle, celui que vous mettez en avant, en tout cas, a rien compris à rien. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est... Le lecteur est plongé dans une sorte d'incompréhension où il se dit « mais personne n'a jamais rien compris pendant 500 ans et on m'a menti ». Et en même temps, il y a plein de trucs très rigolos. Là, Je relisais ce matin le passage sur l'Indochine, où vous changez le nom d'Ho Chi Minh. Là aussi, moi, j'ai beaucoup ri, parce que là, Ho Chi Minh, vous traduisez ça en celui qui dit que tout est fini ou que les choses vont changer. Là, il y a aussi ça dans le texte, c'est que c'est un général de Gaulle qui parle, mais un général de Gaulle qu'on a jamais vu.
J'ai compris ça après coup, mais il y a une influence assez forte de la pataphysique là-dedans. Et même dans le dessin de Thomas, en réalité, le général de Gaulle, c'est un peu ubu. Effectivement, c'est pas qu'il a rien compris, c'est qu'en fait, il dit tout sans penser à mal. Et nous, on est là devant ces énormités qu'il nous sort. Ils disent que les colonisateurs pensent tout bas, en réalité. Est-ce que tout le monde pense tout bas ? Et il nous fait des révélations extraordinaires, sensationnelles, alors que tout est déjà publié dans les bouquins. Et on a l'impression de tomber des nues. Mais lui trouve ça parfaitement normal. C'est là où il y a l'ironie. C'est qu'il nous dit réellement ce qui s'est passé, et c'est horrible. Et il assume parfaitement il trouve ça totalement normal. Et là, on questionne notre identité française. Parce qu'on a tous, au fond de nous, la voix de Michel Leeb, qu'on a entendue dans les années 80 à des émissions en prime time, en train d'imiter les Noirs et de se moquer d'eux et de leurs grosses narines et tout ça. Et ça, pour moi, c'est un reste de la colonisation. C'est un reste de racisme français qui date de la colonisation. Et j'ai exagéré cette part de moi-même franchouillarde que j'ai bien sûr fini par comprendre et que je réprouve, mais quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce qui se passait et ça me faisait rire. J'ai retourné ça comme un gant pour nous le renvoyer à nous, Français, en pleine figure. Et parfois, dans des rencontres que j'ai faites autour de ces livres, j'ai été pris à partie par des descendants d'immigrés, ou des gens qui n'ont pas cette culture franchouillarde que nous, on peut avoir, blanc, peut-être mâle, mais peut-être pas seulement, né dans les années 70, et qui étaient peut-être parfois choqués du fait que j'utilise le racisme pour le renvoyer en pleine gueule aux racistes. Et je me suis dit qu'il y avait des limites, donc que mon livre ne s'adressait pas forcément à tous les lecteurs, que je m'étais adressé à un lecteur blanc qui me ressemble et qui a constitué sa culture de la même manière que la mienne. Et parfois, c'était problématique. Mais après, en expliquant, et puis il y a des gens qui l'ont parfaitement compris, je pense que ce livre fonctionne mieux sur un lecteur à qui on a fait rentrer le racisme dans la tête sans qu'il s'en rende compte, et qui doit aujourd'hui, quand il fait son éducation politique, le débusquer pour se rendre compte que c'est pas bien.
Même dans le dessin, c'est un peu la même chose, parce que quand on stylise au maximum les personnages, on peut aussi se dire, tiens, vous vous moquez des Africains, vous vous moquez des Vietnamiens. Là aussi, c'est une limite qui est compliquée à expliquer, peut-être à franchir, ou à pas franchir d'ailleurs.
C'est toute la limite. Charlie Hebdo, ils ont été, si je puis dire, victimes et même les attentats de ça, quoi. Quand on fait de l'humour, on s'autorise tout. Enfin, sinon, c'est une forme de libération même. Et on peut être mal compris ou incompris. Et tant qu'Internet n'existait pas, Charlie Hebdo restait franco-français et ils étaient bien compris. Et le jour où leur pensée a été diffusée par Internet, je crois qu'ils ont été victimes de malentendus, alors qu'ils étaient devenus, lors des attentats de Charlie, certainement plus du tout subversif, mais ils l'ont été très fortement dans les années 70-80. Ouais. Moi, je crois que dans les années 2015, dans les années 2000-2010, ils ne l'étaient plus, enfin, pas pour moi. Et ils ont été victimes d'une forme d'incompréhension, en réalité.
C'est le fond de l'histoire, la petite histoire des colonies. C'est vraiment ça, c'est jouer avec une limite historique, ouais. Évidemment, parce que les personnages n'ont pas de costume, n'ont pas de tête, il n'y a pas de décor. On peut faire de l'histoire avec presque rien, ça c'est ouais. Une chose assez fascinante. Et ensuite, il y a un vrai problème de politique, de liberté d'expression que ce bouquin transperce.
En fait, on donne les clés, je pense, on donne les clés assez vite dans le bouquin, parce que dès le départ, en fait, on a un gros bonhomme barbu qui se balade dans la nature et qui dit... moi, général de Gaulle, je vais vous raconter l'histoire des colonies. Puis au bout de 10 pages, il s'arrête, il dit « Mais ne soyez pas naïf, je ne suis pas le général de Gaulle puisque je suis mort en 1970, 69, je sais plus. Je suis l'image du général de Gaulle recréée d'après des images d'archives. » Et j'ai fait sciemment un général de Gaulle qui ne ressemble pas du tout au général de Gaulle véritable, parce que pour dire aussi que avec la distance historique, des fois, on se gourre, en fait. Enfin, il peut y avoir des erreurs. Je crois que ce qui m'avait donné cette idée-là, en fait, c'est qu'il y a deux portraits qui existent de Christophe Colomb, Des portraits du 16e siècle, non, 15e ou 16e siècle, et les deux portraits de Christophe Colomb sont complètement antinomiques. Il y en a un, il est joufflu, on dirait Coluche, et il y en a un autre, il est tout maigre et même blond, alors que l'autre est brun, ça n'a rien à voir. Donc en fait, c'est une époque où on n'avait que la peinture pour représenter les choses, mais on n'est pas, on n'est pas à l'abri, d'un bug mondial qui fait qu'on retrouve plus les archives et qu'on soit obligé de recomposer les choses. Et puis, l'idée aussi de montrer le général de Gaulle comme ça, enfin de dire que c'est pas le vrai général de Gaulle, mais c'est une image, c'est aussi pour que le lecteur prenne de la distance aussi avec ce qui est dit, y compris dans le dessin, quoi. Après, c'est vrai que bien sûr, en faisant ce bouquin-là, on s'est posé beaucoup de questions, et même après, sur la représentation des gens racisés, tout ça, c'est des choses, des questions qui étaient moins dans l'actualité à l'époque où on l'a fait. Forcément, effectivement, on est aussi obligé est-ce qu'on est obligé? Ça, c'est une vraie question. Quand on stylise comme ça en bonshomme patate, pour qu'on reconnaisse, qu'on sache que je suis en train de dessiner un Africain, je suis bien obligé de faire une tête noire. Quand je fais un Vietnamien, je fais un petit chapeau pointu. Effectivement, c'est des clichés, mais c'est des clichés que j'essaie
de détruire. On arrive à détruire. De réutiliser les stéréotypes pour les remanier, les reformuler, et les dénoncer.
Mais d'ailleurs, dans l'édition que moi j'ai du premier coffret, il y a un petit livret dans lequel vous expliquez ça très très bien. Il y a un peu un cours de l'histoire des colonies françaises qui est assez fascinant parce qu'on s'aperçoit que les bonhommes patates, il y a une sorte de typologie, pareil les bras, les jambes, les chapeaux, les présidents. Comme je disais au début, on a l'impression que c'est extrêmement simple, mais c'est très très élaboré, c'est très pensé, c'est pas juste du dessin qu'on jette comme ça sur un papier.
Oui, comme je vous dis, c'est des choses auxquelles on a beaucoup réfléchi, ouais, c'est sûr.
Mais c'est les deux, en fait, parce que complètement ce que vous dites, c'est les deux, il y a à la fois un truc très jeté. Et là, on théorise, on le fait après coup. Mais si vous lisez les petites colonies, les livres à mesure des tomes, il y a une progression dans notre écriture, dans notre dessin. Il y a une prise de conscience de ce qu'on est en train de faire. Et c'est toujours un mélange entre la spontanéité du moment. Pour faire rire, il faut être drôle. Il faut arriver à sortir. Enfin, pour faire rire, il faut être drôle. Il faut que ce soit frais, quoi. Il faut qu'il y ait un truc étonnant et ça peut être que frais, quoi. C'est-à-dire une idée qui vient tout de suite en tête et après il y a la traduction de l'idée dans la forme et c'est là où il faut prendre conscience de ce qu'on fait et plus on avance, plus on maîtrise son écriture, plus on maîtrise son dessin et plus ça se théorise. Mais c'est un aller-retour entre les deux. Il faut garder la fraîcheur du premier jet, de la première idée, puis avoir suffisamment de maîtrise dans l'écriture et dans le dessin pour ne pas abîmer l'idée et pour la transmettre avec de la maîtrise.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille comme ça, c'est-à-dire que Grégory il me soumet les textes un peu au fur et à mesure qu'il les fait pour que je réagisse aussitôt. J'ai pas tout le texte devant les yeux et puis après ce serait vraiment trop laborieux. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de bosser comme ça en ping-pong.
Dans le petit livret, il y a aussi un texte d'une historienne spécialiste donc de ces questions. Quel a été son rôle dans l'écriture et dans l'élaboration du projet? Est-ce qu'elle l'a suivi? Est-ce qu'elle vous a conseillé?
En réalité, elle est intervenue après coup. On a tout fait. Et quand on a fait l'intégrale, donc les volumes sont tous sortis, les 5 tomes. Et quand on a fait l'intégrale, c'est une historienne que j'admire beaucoup, que j'ai utilisée comme source. On l'a contactée et on lui a demandé si elle n'avait pas envie d'écrire une préface à notre travail. On lui a envoyé les volumes, elle s'est bien marrée et elle a accepté gentiment d'écrire cette. Elle n'est pas vraiment intervenue dans l'élaboration des bouquins. En revanche, de la rencontrer, ça m'a donné envie pour d'autres projets par la suite, notamment Les Voyages de Belzoni ou La petite histoire de la Révolution française, de travailler plus directement avec des historiens spécialistes des questions que j'abordais. J'ai eu des longues conversations avec une historienne de la Révolution française qui s'appelle Anne Jollet pour faire La petite histoire de la Révolution française et ça m'a énormément aidé. Et là, pour La petite histoire des colonies françaises, sans doute, j'aurais pu travailler de cette façon. Peut-être qu'on aurait perdu en spontanéité et tout. Il y a vraiment, quand je relis, ça fait quand même 15 ans maintenant qu'on les a fait, enfin 10 ans pour le dernier volume, du temps s'est passé. Et quand je les relis, je me dis, putain, j'étais culotté, j'ai osé des trucs, peut-être que j'oserais plus aujourd'hui et que travailler directement avec un historien, c'est mieux parce que ça vous enlève une vision un peu caricaturale et puis on peut poser directement des questions et tout. Mais là, il y a un truc vraiment assumé, un truc de sale gosse que j'aime bien quand je relis ces livres-là. J'ai presque tout appris J'ai appris à écrire en les faisant. Il y a vraiment un truc flubble-up que je pourrais plus faire en approchant de la cinquantaine, que je me suis permis dans ma trentaine. Un truc comme ça, quoi. Et je trouve ça bien de ne pas avoir travaillé avec un historien, en fait.
On va s'arrêter là-dessus, sur cette réflexion sur le temps qui passe. Voilà. je vous remercie tous les deux d'avoir consacré du temps pour parler de la petite histoire des colonies. Donc, c'est publié par les éditions Flubble-Up. Voilà, faut pas oublier le B final.
Ouais, c'est ça.
Chaque volume fait 128 pages et c'est au prix de 15€ par volume. Comme je dis toujours, c'est carrément donné pour autant de lecture et surtout d'apprentissage de notre histoire. Je vais finir, je fais jamais ça, mais sur une phrase très, très forte de, je crois que c'est Robert Badinter qui disait que la France n'est pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et ouais. C'est une différence qu'il ne faut pas oublier, qui est, je trouve, au cœur de votre
c'est
projet.
C'est pas faux.
Thomas, tu as quelque chose ?
Ouais, on peut préciser qu'on cite nos sources à chaque fin de volume. Nos sources à la fois en livre et puis quelques films aussi, qui nous ont servi pour écrire et pour dessiner aussi les 5 tomes.
Ah non, mais historiquement, c'est un travail de Romain, hein. Ça, je dois le préciser. Mais je vous remercie beaucoup et
merci
vous dis
à
très bientôt.
Merci,
au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.